Aujourd'hui, en ce 18 novembre, rencontre spirituelle. Il est question d'un abbé de Cluny. Peut-être que certains d'entre vous vont se dire pourquoi parler d'un homme qui a vécu au Xe siècle. C'est que l'abbaye de Cluny a été la plus importante de toutes les abbayes, peut-être, dans l'histoire du christianisme. Et saint Odon en a été le deuxième abbé, c'est-à-dire le deuxième supérieur. Et c'est une vie intéressante qui est à l'origine, finalement, de cette immense abbaye, dont l'église était si grande qu'on peut la reconstituer. C'est un Américain, un archéologue, qui s'est penché sur cette question de façon très intelligente, en compagnie de bien d'autres personnes, et il nous a restitué l'immensité de cette église, de ces moines qui avaient, à travers l'Europe, plus de 2000 monastères qui dépendaient d'eux. L'abbé régnait sur tout ça. Et on peut voir que cette immense église était aussi grande, en fait, que celle de Saint-Pierre de Rome à l'époque. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Mais l'importance de Cluny est encore beaucoup plus sérieuse que ça. C'est vraiment une abbaye qui a suscité de nombreux saints. Elle a même donné à l'Église des papes, de nombreux cardinaux honorables, formés à la vie monastique, des hommes de prière et de foi. Saint Odon, lui, a été à Cluny. Donc Cluny, je vais vous dire où c'est au sud-est de Paris, en Saône-et-Loire, donc dans la région, si vous voulez, pour ceux qui connaissent un peu ça, de la région d'Autun, de Mâcon. C'est une région intéressante à visiter, et Autun, d'ailleurs, c'est à voir, c'est une belle église, une ancienne église romane. Alors, c'était Saint Odon, on peut dire, le premier d'une dynastie d'abbés composée de quelques très grands hommes. D'accord, il y a eu avant lui un abbé qui a fondé le monastère. Saint Odon a contribué à faire de son monastère, en somme, on peut dire, une capitale du christianisme, une capitale de la chrétienté. Et évidemment, de son ordre, il a fait une puissance européenne internationale. On connaît la vie de Saint Odon par un de ses disciples italiens, Giovanni di Salerno, en français Jean de Salerne, qui nous a laissé sur Saint Odon un texte un peu bavard, mais c'est assez savoureux. Et puis on a aussi un texte écrit 200 ans plus tard par un moine de Cluny même, qui avait un nom très étrange, le père Nalgod, et qui a résumé, en somme, les mémoires de Giovanni di Salerno. Alors, on a donc des textes assez sérieux, et dont Mabillon, qui a vécu plus tard, qui était un des plus grands savants d'Europe, un bénédictin aussi, lui, a fait de toute la documentation ancienne une synthèse, qui demeure excellente. Alors donc, Odo, ou Oddo, avec deux D, c'est une variante du nom allemand qu'on connaît bien, Otto, qu'on voit souvent, O-D-T-O. Et c'est en forme francisée, savez-vous que c'est Eudes, qui est un nom de... Bien, il y a Saint-Jean-Eudes, mais il y a aussi les Eudes. Nous avons des Eudes à Montréal, j'en profite pour saluer Madame Eudes, une dame que je connais bien, et qui m'écoute de temps en temps. Saint-Odon est né vers 879 dans la région de Tours. On revient encore à Tours, avec Saint-Martin de Tours. Et les origines, pour ainsi dire, les origines spirituelles du Québec, du Canada. Le père de Saint-Odon s'appelait Abbon. C'est d'ailleurs le nom du, si je me souviens bien, du premier abbé de Cluny, ça. Mais c'est pas lui le premier abbé de Cluny. Donc, le père de Saint-Odon, c'est Abbon, et c'était un homme très religieux qui pouvait réciter des tirades des anciens historiens sacrés. Il savait par cœur même, on dit, des textes de Justinien. Comme un homme de loi, un avocat, connaît son code civil, pour ainsi dire. On dit que la conversation de son père était pleine de réminiscences évangéliques, surtout. C'est C'était donc un homme exceptionnellement instruit pour son époque. Odon avait donc un père exceptionnel. Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, l'estimait d'ailleurs son père comme un avocat habile, un juriste savant. Une nuit de Noël, à Bon, le père d'Odon prit de tout son cœur pour sa femme, qui est déjà un peu âgée. Elle n'a pas eu d'enfant. Et sa foi fait que sa prière est entendue par Dieu. Un petit garçon leur est donné. Et Abon vient un jour auprès du berceau de son fils. Il est seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va imiter, souvenez-vous de Saint Léonide, le père d'Origène, dont je vous ai parlé il y a à peine quelques semaines, qui baisait la poitrine de son petit Origène, mettant le temple du Saint-Esprit. Je vous ai parlé d'Origène, je crois que c'est le 7 novembre dernier. Donc, il n'y a pas longtemps. Il y a 11 jours. Alors, Abon prend son bébé, le soulève dans ses mains, comme une oblation, en disant, « Recevez au Saint-Martin cet enfant, et soyez son protecteur et son père. » On est à Tours, la ville de Saint-Martin, c'est pour ça qu'il invoque Saint-Martin. Ça me rappelle mon frère Guy qui avait fait ça avec sa fille Emmanuelle, qui est une jeune femme aujourd'hui. À l'église Saint-Viateur d'Outremont, il avait pris sa fillette qui venait d'être baptisée, l'avait amenée dans l'église et l'avait ainsi offerte à Dieu. Alors, Abon s'esquive finalement, pudeur, calcul, on ne sait pas, il n'ose pas parler de cette offrande un peu secrète. Il était seul. Alors deux voies s'ouvrent à ce jeune noble Odon, se faire soldat ou bien se faire prêtre ou moine. Alors, Odon apprend à lire chez un des prêtres que son père Abon a sur ses terres. Et ce précepteur, ce prêtre, voit en songe Saint-Pierre et Saint-Paul lui réclamer son élève pour l'Orient. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour aller comme missionnaire, en somme. Et Odon devenait un beau jeune garçon. Son père ne tient pas tellement à ce qu'il devienne un religieux. Il le pousse plutôt à devenir soldat. Il est élevé chez le fameux Foulque II, comte d'Anjou. Et de 893 à 896 environ, il est élevé chez Guillaume, duc d'Aquitaine. Il devient habile chasseur. Il dresse très intelligemment les faucons pour la chasse aussi. Vous savez, on voit ça des fois à la télévision, ces faucons qui viennent se placer sur les points gantés des fauconniers, comme on dit. Mais Dieu tient, semble-t-il, à sauver ceux qui ne s'en soucient pas beaucoup, ça arrive. C'est bien la parabole du bon pasteur qui quitte toutes ses brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Alors le jeune Odon a bientôt des remords. Et puis la chasse, ça lui paraît tout à coup un exercice d'abord assez éreintant et surtout absolument inutile et vain. On consacre pas finalement sa vie à la chasse. Ça doit être ennuyant, il me semble. Alors une nuit de Noël, il prie la Sainte Vierge. Il lui dit, dans le langage de l'époque, ce sont les vieilles prières d'il y a 1000 ans. Ô dame, mère de miséricorde, vous avez donné au monde le Sauveur en cette nuit. Daignez prier pour moi. J'ai recours à votre glorieux et incomparable enfantement. Ô très bonne, et vous inclinez à mes prières l'oreille de votre bonté. J'ai grand-peur que ma vie ne déplaise à votre Fils. Et puisqu'il s'est manifesté au monde par vous, je vous demande qu'il ait pitié de moi sans retard. Alors sa santé, n'est plus très bonne. Son père, Abon, voit bien qu'il ne faut plus résister à Dieu qui appelle son fils. Et d'ailleurs, il se rappelle de l'oblation sur le berceau quand il l'a offert à Saint-Martin, en lui demandant à Saint-Martin de s'en occuper. Alors, il prie à nouveau Saint-Martin et il lui dit, « Voilà, bienheureux Martin, Le don que je vous ai offert de bon cœur, vous l'exigez aujourd'hui avec une certaine rigueur. Alors, puisque c'est comme ça, et que vous entendez mes prières, je sens que vous risquez de me ruiner quand il s'agit de vous rendre compte. Alors, Odon devient un clerc tonsuré. Je vous rappelle pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un clerc tonsuré, ça veut dire, disons, un séminariste, tout simplement, qui reçoit la tonsure. Moi, j'ai reçu ça quand j'avais 24 ans au grand séminaire. On nous donnait ça dans ce temps-là. C'est qu'on nous coupait quelques cheveux sur le sommet de la tête. Et des confrères séminaristes, avec un bon rasoir, faisaient comme une hostie, un rond. C'est pas une hostie qu'on faisait, évidemment. Un rond qui symbolisait les cheveux complètement rasés, qui symbolisait la fuite du monde, la fuite des soucis, des vanités, pour adhérer à l'essentiel. Alors donc, il est tonsuré 19 ans, vers 899, et le comte Foulque lui accorde un logis près de Saint-Martin, à Tours, près de l'abbaye de Saint-Martin. Il lui donne aussi une prébende canoniale, c'est-à-dire qu'il le nomme chanoine, ce qui lui rapporte un peu d'argent. Il doit réciter donc l'office au cœur de la cathédrale Saint-Martin. Alors le jeune Odon se met à la lecture des ouvrages spirituels, à la lecture des Écritures saintes, et plus particulièrement aussi à l'oraison, à la prière solitaire et seule. Mais il ne délaisse pas l'étude, il se plonge dans la grammaire. Il est sur le point d'aborder Virgile, d'ailleurs, lorsqu'il a un songe. Il va, mourant de soif, quand il voit sur la route une amphore admirable. Vous savez, une amphore, c'est ces grands récipients, ces grandes bouteilles, si disons en langage ordinaire. Alors il la saisit pour boire, puis elle est pleine de serpents. On voit ça dans les Pères latins au tome 133, dans Migne. Alors, considérez tous les livres des Antiquités, vous verrez que les plus puissants sont toujours les pires, se dit-il. Et la scène de l'amphore est peinte à fresque, d'ailleurs, dans la bibliothèque de l'abbaye de Metten en Bavière, très belle abbaye. Il laisse Virgile, là. Il laisse les charmes de la lecture de Virgile pour lire les prophètes de l'Ancien Testament, pour lire les évangiles dont je vous parlerai bientôt. Une émission spéciale. Alors les chanoines, ses confrères, trouvent qu'il est bien bon de se donner tant de mal, puisqu'il suffit de savoir au fond lire les psaumes, puis de les réciter, puis on retire un peu d'argent. Ils sont un peu matérialistes dans leur exercice spirituel, comme vous voyez, et Odon tient cependant à la science solide, lui. Alors il se rend à Paris, puis là, sous la direction d'un moine Rémy d'Auxerre, ou d'Auxerre si vous préférez, mais ça se prononce Auxerre, il étudie la dialectique à Adéodadite de Saint-Augustin. C'est un ouvrage sérieux, il devient expert dans les connaissances, disons, comme celles d'un cours classique, puis revenu à Tours, où il y a les ateliers d'édition qui sont fort brillants à cette époque-là, mais ça dépérit un peu depuis quelque temps, et il publie, ou il condense, et on ne publie pas, mais on fait copier les 35 livres des Morales de Saint Grégoire sur Job. Et pendant 5 ou 6 ans, bien, il mène auprès de l'abbaye Saint-Martin une vie studieuse, puis ascétique, hanté par le désir d'un état parfait. Mais où trouver cet état parfait? Alors les Normands ont saccagé les monastères, de leur côté le haut clergé, la noblesse, la royauté, ils ont dégradé la vie monastique. Alors les premiers capétiens, eux, qui imitent les Carolingiens, disposent en maître de biens qui devraient être exempts. Hein? Alors les évêques, les grands feudateurs trouvent naturel de faire main basse sur les revenus des abbayes, puis la plupart des monastères à ce temps-là sont devenus des terres de rapport, des domaines d'exploitation, où un homme, un séculier, un pré-séculier, théoriquement abbé, on lui donne le titre d'abbé, vous savez, ça a commencé il y a longtemps, cette histoire-là, pour s'arrêter il y a quelques siècles. Alors il installe sa maisonnée, son chenil, ses écuries, il fait de la chasse, et les moines, eux, sont parqués dans un coin, laissés à eux-mêmes, n'ont pas à obéir, ils végètent. C'est la décadence. Cependant, quelques foyers monastiques, ça et là, gardent lumière et chaleur, et tel le beau monastère de Saint-Savin-sur-Gartempe, à l'est de Poitiers, faut visiter ça, les fresques là-dedans, c'est magnifique, et soumis à la réforme de Saint-Agnan, de ce monastère, a fourni des moniteurs au comte Badillon, restaurateur de l'observance, à Saint-Martin d'Autun, et là, on voit la réforme se dessine, et Saint-Audon va rentrer dans cet esprit-là pour former l'abbaye de Cluny. Alors à Tours, revenons à Tours, il y avait 150 chanoines qui n'étaient pas très très zélés. Ils avaient succédé à quelques 300 moines dans ce monastère qui étaient disparus. Les moines étaient disparus. Et ces chanoines peu sérieux toléraient le passage de femmes à travers leurs clôtures, vous voyez le genre. Aussi, lorsqu'en l'an 903, la basilique brûle pour la seconde fois, c'est les Normands qui l'avaient incendié la ville 50 ans plus tôt, en 853. Et depuis ce temps-là, d'ailleurs, ils harcelaient la ville de Tours. Eh bien, Saint-Audon prêche sur cet incendie terrible. Et il adapte le grand thème de Saint-Augustin dans son ouvrage « La cité de Dieu ». Nul déclin de Martin le Saint, disait-il, mais punition des pécheurs. Donc, c'est pas l'abbaye qui tombe en ruine, c'est les pécheurs qui tombent en ruine. Audon, lui, il vit en pénitent, et de nuit, sans prendre la peine de fermer à clé, demeure très pauvre, il se rend au tombeau de Saint-Martin. Et là, armé seulement de deux tablettes reliées en forme de livre, comme les étudiants en portaient pendues sur leur cuisse droite à l'époque, il prie. Mais à ce moment-là, des renards, raconte la légende, qui se jettent sur lui, mais un loup les chasse. On raconte que son lit, c'est une simple natte sur le sol, un peu comme les Japonais, n'est-ce pas? Et la règle bénédictine qu'il prend pour guide ordonne au chapitre 22 de dormir tout vêtu. C'était comme ça jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, même chez les trappistes, c'était comme ça. Pendant 3 ans, donc, il couche tout habillé. Le comte foule que lui fait remettre une somme assez importante. Il la distribue aux pauvres. Alors, le bon foule que se permet de rafler un moment, donner 2 vases d'or au trésor de la basilique Saint-Martin. Et il se sent tout à coup très mal, sa santé s'altère, mais Saint-Audon obtient sa guérison. Et il l'exhorte, Foulque, à tout quitter pour chercher Dieu. Alors le comte Foulque le remercie, mais c'est pas bête, il propose plutôt un de ses chevaliers qui s'appelle Aigrin, pour le remplacer comme moi. Et de fait, eh bien, cet Aigrin est bien volontaire pour cette mission plutôt inquiétante. Et Audon et lui décident de s'adresser à Saint-Benoît, où trouver des gens qui ont des vertus solides. Alors à Beaume, les messieurs dans le Jura, et c'est là qu'ils aboutissent. La maison de Beaume était dirigée par le fameux Saint-Abbé Bernon, sous les constitutions d'un bon moine, qui n'était autre que Saint-Benoît d'Agnan, et Audon arrive en 909 avec ce qu'il avait de plus précieux. Il arrive avec quoi? Sa bibliothèque. Une grande bibliothèque à l'époque, 100 volumes, des manuscrits. Comme il est jeune, plein d'allant, on lui confie la scola, c'est-à-dire la chorale, si vous voulez, mais aussi l'école, l'instruction des jeunes, l'avenir, l'espérance. Donc à Beaume, c'est un peu dans le sud de la France, l'observance est sévère. Sa bonne réputation vaut à Bernon de se voir offrir par Guillaume d'Aquitaine ce qu'on appelle la villa de Cluny, près de Mâcon, comme je vous ai dit au début, en 910. Et en 917, un homme puissant, Eble de Châteauroux, lui remet sa fondation de Déol. Alors, On lui donne aussi les maisons de Moutier en Bresse, en Saône-et-Loire, donc dans la même région que Cluny, et de Massé dans le Berry, c'est-à-dire dans le Cher. Alors, s'ajoute donc le désir de réformer tout ça. Le règlement voulait que si l'un des petits oblats demandait la nuit à aller au cabinet, eh bien le père maître l'accompagne toujours avec une chandelle et flanqué d'un autre enfant, évidemment. Et une nuit, bien, Saint-Audon estime que la chandelle du dortoir éclairait suffisamment les cabinets pour se dispenser d'observer cette petite rubrique. Il est dénoncé au chapitre suivant. Il est même excommunié, comme quoi on était sévère dans ces nouvelles règles. Et Odon se soumet tranquillement. Le père abbé, qui avait voulu prouver sa vertu, l'apprécie désormais encore plus. Vous savez qu'on ne mangeait rien entre les repas, c'est sûr. Dans les monastères, on ne mange rien, sauf l'après-midi à une collation dans certains monastères. Et chacun ramassait au réfectoire les miettes qui restaient autour de sa petite écuelle. Il les avalait avant qu'on ne lève la séance. Je me souviens, dans les monastères, on voit les moines qui ramassent les miettes, mais au lieu de les avaler, ils les mettent dans l'assiette qui va être lavée. Et un jour, captivé par la lecture, Saint-Audon est surpris par le signal du lever de table avec ses miettes dans le creux de sa main. Alors il vient avouer à l'abbé sa négligence puisqu'il ne les a pas mangées. Et comme la cloche a sonné, il est trop tard. C'est réglementaire, c'était terrible, hein? C'est sévère. Quand il ouvre la main pour montrer ce qu'il a dans la main, on s'aperçoit qu'il tient, raconte la belle légende de cette époque, une poignée de perles. Alors, on raconte qu'on les employait pour décorer un ornement liturgique. Laissons faire les légendes. L'abbé Bernon, le premier abbé, fait ordonner prêtre Odon par l'évêque de Limoges. Et cette dignité ne plaît pas tellement à Odon, qui préférait être simplement moine. Vous savez, être moine, ça ne veut pas dire être prêtre, ça veut dire être moine, être quelqu'un qui glorifie Dieu, qui le louange. Et la coutume à cette époque était que les nouveaux ministres du Christ, les prêtres, gardent l'étole pendant une nuit. Et au réveil, Odon, voyant sur son sein cette bande d'étoffe, l'étole qu'on met autour du cou, là, les prêtres, elle lui semble être un serpent, puis il éclate en sanglots, et par la suite, son prélat consécrateur lui demande de mettre par écrit les accents étranges, véhéments et renouvelés des prophètes qu'il trouve contre les clercs, les religieux indignes. C'est que quand il a vu ça comme un serpent, c'est que ça lui rappelait l'indignité de bien des prêtres. Et ça, donc par écrit, ce sont les fameux trois livres des conférences ou collationes de Saint-Audon. Trois livres. Se voyant mourir, l'abbé de Cluny, le Bernon, règle sa succession, partage ses sept monastères entre Guy, son parent, et Saint-Audon. Et en présence des évêques voisins, il fait élire Odon abbé. Odon est menacé d'excommunication par les prélats s'il n'accepte pas son élection. Alors il doit donc se résigner. Et Bernon meurt au début de l'an 927, et alors Odon reçoit pour sa part Cluny, Déole, Massé, trois abbayes. Il décide de se fixer à l'abbaye de Cluny. Et son prestige va devenir mondial. Il deviendra l'un des plus grands personnages d'Europe. Et nous verrons tout à l'heure toute son activité réformatrice de ce saint, qui est parfois bien difficile, même que les moines parfois se soulèvent contre lui. Mais je crois que je fais mieux de continuer, de vous dire que les moines se soulèvent et finalement, il cède quand il se présente monté simplement sur un petit âne comme Jésus-Christ. Et en 931, bien, cet Odon obtient du pape Jean XI un privilège qui place l'abbaye Cluny sous la protection immédiatement de Saint-Pierre, du pape. Et l'abbaye pourra recevoir des monastères à son obédience, des moines étrangers désireux d'une vie plus parfaite. Et saint Odon est souvent secondé dans son labeur, qui est très difficile, par les rois, les évêques, les grands, qui aiment cet ancien seigneur, qui est au fond un parent. Et en 929, il relève d'autres monastères, et il parcourt la France. C'est incroyable tout le travail qu'il fait. On se demande comment, petit à petit, il arrive à faire tout ce qu'il fait pour rénover Cluny et tous ses monastères. Thank you. êtes à l'écoute de Rencontres spirituelles à Radio Ville-Marie. Et à Rencontres spirituelles, aujourd'hui, on célèbre la fête de Saint Odon de Cluny, abbé de cet immense monastère, illustre parmi tous dans l'histoire de non seulement de l'architecture, mais de la vie spirituelle de l'Occident. À Cluny, donc, on consacre l'Église au Xe siècle et il y a beaucoup de prélats qui se présentent avec leurs suites. Les évêques se promenaient avec des suites à cette époque, alors qu'aujourd'hui ils sont accompagnés d'une seule personne, se promènent souvent en petite voiture de rien du tout. Ça s'est grandement réformé, notre Église. Et alors donc, tout ce monde participe à la fête de la consécration de cette Église de Cluny. Mais leur présence ruine presque l'abbaye. Il y a trop de bouches à nourrir, il y a trop de monde. L'abbaye n'est pas encore assez importante. Et on se demande comment nourrir tout ce beau monde. Alors la légende, je crois bien que c'est une légende, nous raconte qu'un sanglier vient heurter à la porte de l'Église et reste là jusqu'à ce qu'on lui molle. Et grâce à cette offrande providentielle, dit-on, le festin a été splendide. Mais soyons sérieux, quelques siècles plus tard, on sait que il y a eu des cortèges princiers et pontificaux, même des papes qui sont présentés à l'abbaye Cluny, qui était immense, là. Il y avait le roi Louis IX, le pape Innocent IV, à l'automne 1245, qui sont venus ensemble. Saint-Louis est demeuré 8 jours à Cluny, avec toute sa suite, une cour énorme. Innocent IV, lui, a séjourné 1 mois. Telle était l'importance de l'abbaye de Cluny, que la multitude de tous ces prélats, les princes qui composaient leur suite, a pu y loger et y être hébergé et nourri sans gêner aucunement les exercices habituels des bénédictins, qui étaient plus de 1000, et qui chantaient au chœur, comme on vient d'entendre tout à l'heure, les moines de l'abbaye bénédictine de Solesmes en France, sur ce très beau disque qui s'est intitulé « Chants grégoriens et orgues ». L'abbaye de Cluny devient donc chef d'ordre avec ses privilèges, ses rites, sa discipline modèle, son protocole de... qui fait que lorsqu'on assiste aux cérémonies, on a l'impression d'être au ciel. Son père, abbé Saint Odon, est finalement un grand seigneur temporel qui concourt à la paix du monde. Il s'interpose entre les rois et les grands, il aide aussi les pauvres. Parfois même des nécessités viennent lui offrir en vente des objets, et Odon double automatiquement le prix qu'il demande. Un jour, en voyage, il fait monter sur son cheval un pauvre vieux qui porte un sac qui sent plutôt mauvais, c'est de l'ail et des oignons. Mais ça ne le gêne pas, pas du tout. Il est humble. Il aime répéter que les aveugles et les estropiés sont les portiers du ciel, de la Jérusalem céleste. On voit ça d'ailleurs dans Saint-Luc, chapitre 6, là, il y a « Sur l'aumône des intéressés », tout ça, on voit ça dans la Bible, c'est très beau. Les intérêts généraux, donc, de l'Église puis de l'ordre monastique bénédictin, le souci aussi de réconcilier le fameux prince de Rome, Albéric, avec le roi des Lombards ou de Provence, Hugues, puis de réorganiser le monastère romain de Saint-Paul hors les murs, qui a été reconstruit, je suis allé voir ça encore plusieurs fois cet été, Saint-Paul hors les murs, c'est immense, c'est une abbaye bénédictine, ça. Eh bien, conduisent Odon vers 936, tout ce travail, ça le conduit dans la capitale, hein, qui est bien avilie, là, de la chrétienté, pauvre Rome, hein. Et Odon ne réussit pas à établir une paix définitive entre le beau-père et le gendre, hein, entre Hugues et Albéric de Rome. Mais tous deux sont d'accord quand même pour lui témoigner à Saint Odon une grande vénération. Et Albéric établit Odon archi-abbé de tous les monastères situés dans le voisinage de Rome. Saint Odon là, se charge de Saint-Paul-hors-les-Murs, de Sainte-Marie de l'Aventin, de Saint-Laurent, de Sainte-Agnès sur la voie Appienne. Il faut aller à Sainte-Agnès, visiter les catacombes aussi, j'ai vu ça il y a quelques mois, c'est super. Saint-André, au Chilius, puis tout ça. Il s'occupe aussi de Subiaco, je suis allé aussi. Oh, pas chier d'aller à Subiaco en Italie, c'est magnifique. Ce monastère bénédictin, le premier, le début de l'ordre bénédictin, pour ainsi dire, avec le mont Cassin. Il va aussi à Castel Sant'Elia. Il circule beaucoup. On le voit à Pavie, au Mont Gargano. Le Mont Gargano, c'est tout près de là où vivait Padre Pio. Je suis allé. Puis à Salerne aussi, en Campanie. Or, Saint-Adon ne réussit jamais à pénétrer cependant à Farfa. Et après sa mort, une expédition militaire y impose un abbé réformé, là, parce qu'on ne voulait pas se réformer, à Farfa. Et c'est à Rome qu'il contracte sa dernière maladie. Il a une drôle d'impression. Il y a des chaleurs épouvantables. Ça lui il semble cuire, dit-on dans les vieux textes, comme dans un jus froid. Ces gens de Salerne qui emploient frigidus ignis, feu froid, pour décrire son mal. De toute façon, Saint-Adon, pauvre malade, a l'énergie de se faire ramener dans sa ville de Tours, qui est située plutôt dans le nord de la France, auprès du saint de sa jeunesse, Saint-Martin. Il y revient pour le 11 novembre, le jour même de la grande fête de Saint-Martin. Et à cette coïncidence, les habitants de la ville de Tours se réjouissent. Le vieil abbé de Cluny s'offre donc à Dieu avec l'hostie vivante durant la messe. Et pendant 3 jours, il se sent un peu mieux. Il est un peu déçu, il voudrait aller voir Dieu. Et le 4e jour, le mal le reprend, il s'écrie, « ô Christ, pitié pour ceux que tu as rachetés. » Alors il parle aux moines bénédictins qui sont là, il les bénit, et il meurt le 18 novembre. C'est le jour octave, comme on dit, de la fête, c'est-à-dire 8 jours après la fête du 11 novembre, la fête de Saint-Martin. Je dis ça pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot octave dont on parle peu aujourd'hui. C'est la fête qu'on célèbre une semaine après la vraie fête. Et il meurt donc en 942 à 63 ans, encore jeune. On l'enterre à Saint-Julien de Tours. Alors que va devenir l'abbaye de Cluny? Son progrès venait pour une bonne part de Saint-Adon. Et Adon avait formé les moines, heureusement. Son autorité morale ne périt pas avec lui, ils sont bien formés. Il a eu pour parfaire son œuvre pendant plus de 100 ans une suite d'abbés qui ont été des saints, vraiment des saints, des meneurs d'armes. Je vous en parlerai. Ce sont des saints extraordinaires, Saint-Hugues en particulier. Notre Saint-Adon, qui avait réussi à conquérir à la vie monastique son vieux père Abbon et sa vieille mère, qui sont devenus bénédictins et bénédictines, était un homme sympathique. Il avait l'air affable et simple. Je crois vous avoir déjà parlé qu'à l'abbaye d'Ancalca, quand j'y suis allé en 1950, le père abbé, qui était encore jeune, recevait à la sortie de l'église le soir, très tard, après les complis, il recevait à genoux la bénédiction de son père, qui était simple frère convert, le comte de Fleurys, son père, ou le marquis de Fleurys, je crois. Le vain caractère a enjoué Adon. Il réussissait même à gagner au Christ des brigands. Saint-Louis faisait ça aussi. Puis Saint-Louis était plein d'humour, nous raconte Joinville. Il taquinait doucement son confident Jean de Salerne aux sentiments trop humains, Adon. Saint-Adon était patient. C'est un professeur, je vous ai dit, à la Scola de Beaume. Il a supporté longtemps les mauvais procédés de quelques jeunes excités. Ce n'est pas qu'il manquait d'autorité. Il sortait d'un monde, lui, où les usages courants l'autorisaient à sévir, et c'est ainsi que, reçu un soir dans un château, les seigneurs étant absents, Adon a vu leur fille se jeter à ses pieds. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle le supplie de la sauver d'un mariage, un mariage qui doit être célébré dans quelques heures et qui lui faisait horreur. Après en avoir discuté avec un moine qui l'accompagnait, Saint-Adon prend une curieuse décision. Il part avec le moine en amenant la jeune fille pendant que dans le château on dort. Adon, qui n'était à ce moment-là qu'un simple moine, plaide sa cause devant le père abbé de son monastère. Et il déclare, « Toutes les femmes de la région qui sont liées par un lien de chair obligatoire, je voudrais pouvoir les racheter. » sur l'ordre de l'abbé, Adam va voir chaque jour sa fille spirituelle en présence d'un frère, ben ça va de soi, hein, pour pas être seul avec elle. Et alors il lui porte à manger, puis il lui raconte les vies exemplaires des anciens pères et des saints. Puis elle entre finalement chez des moniales, mais elle meurt bientôt. On raconte qu'elle aurait vu saint Paul, qui venait la chercher. Saint Adam a été un moine jusqu'au fond des eaux, hein, jusqu'au moine. Il se défiait du sacerdoce, je vous l'ai dit, puis il redoutait l'abbatiat aussi, puis les prérogatives de l'abbatiat. Il estimait grandement la vie ordinaire des moines ordinaires. C'est vrai, c'est une belle vie, la vie des moines ordinaires. Une vie de prière, d'études, d'enseignement, de travaux, de présence en Dieu, de présence à Dieu. C'est une très belle vie, la vie contemplative. Mais ça peut être une vie très dangereuse. L'infidélité fait que le moine s'embourgeoise. Il faut être comme une flamme brûlante. Et saint Adam a laissé une œuvre écrite assez considérable, je vous l'ai dit. Chez lui, l'orateur, l'écrivain, semble assez différent de l'homme. On trouve chez lui des accents durs parfois, même un peu amers, même un peu pessimistes, je dirais. Ce moine bénédictin, plutôt patient et enjoué, on n'aurait pas pensé qu'il aurait pu écrire des choses comme ça. Et il a écrit un abrégé, comme j'ai dit, du commentaire de Job par saint Grégoire, qui se présente avec deux préfaces, en prose et en vers. Il a composé, pour l'évêque de Limoges, là, les fameuses conférences dont j'ai parlé, en trois livres. Et le titre, Conférence ou Collationes, rappelle l'ouvrage classique de Jean Cassien, qui est fêté le 23 juillet. Il faudrait bien que je vous consacre une belle émission sur Jean Cassien, qui est un homme passionnant du début de l'Église. Il utilise beaucoup d'extraits, saint Adam, des extraits des pères de l'Église, saint Grégoire le Grand, saint Jérôme, saint Ambroise, saint Grégoire de Nazianze, saint Cyprien. C'est un homme profondément renseigné et cultivé. Il nous reste d'ailleurs 5 sermons de saint Adam. Et le premier, c'est sur la chair de saint Pierre. Or, c'est aujourd'hui la fête aussi de la consécration de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et j'aurais le goût de vous en lire un passage de ce sermon. Je vous en lis un tout bref passage. Le bienheureux Pierre, le prince du collège apostolique, qui fut le premier à confesser, c'est-à-dire à proclamer la divinité du Seigneur Jésus, a été constitué Pierre de l'Église et portier du royaume des cieux. Son nom lui est donné par Jésus en raison de la fonction qu'il lui donne et par considération pour son pouvoir lorsqu'il s'est mérité d'entendre de la bouche du Sauveur, Jésus qui dit à Saint-Pierre, « Et moi, je te dis. » C'est-à-dire, comme mon Père t'a manifesté ma divinité, ainsi moi, je te fais connaître ton excellence, tu es Pierre. Je suis, moi, le fondement, hors duquel nul ne peut rien poser, mais toi, Pierre, tu es aussi Pierre, car tu es consolidé par ma puissance, en sorte que ce qui m'est propre par puissance te soit communiqué à toi par une participation. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les forces de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Et sur cette force, j'édifierai un temple éternel et mon Église, qui élèvera sa hauteur jusqu'au ciel, se dressera sur la fermeté de cette foi. Cette foi, les puissances de l'enfer ne la maîtriseront pas, continue saint Adam. Les liens de la mort ne l'enchaîneront point. C'est la voie de la vie. Ceux qui l'ont confessée, elle les amène aux cieux. Ceux qui l'ont reniée consciemment, elle les plonge aux enfers. Et c'est pourquoi il est dit au bienheureux Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Et tout ce que tu liras sur terre sera lié pareillement dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur terre sera délié pareillement dans les cieux. Oh, inestimable et immense bonté, un homme sur terre, tenir le ciel. Voici que maintenant, sur un signe de pierre, s'ouvrent les cloîtres du divin royaume. Il a reçu du Christ, quoi? Les clés du royaume des cieux pour dénouer les liens des péchés et ouvrir le ciel aux croyants. aux remèdes accessibles et illimités, le monde après de lui le royaume de Dieu, s'il recourt à Pierre, le Christ mis à sa place ici-bas Pierre comme portier du céleste royaume, pour que nul ne pût trouver difficile de monter au ciel. Mais le droit de ce pouvoir est passé aux autres apôtres et à tous les princes de l'Église pour qui fut constitué ce décret. Mais ce n'est pas en vain qu'est confié à un seul ce qui est prescrit à tous. Et saint Adon termine en disant, il est remis à Pierre uniquement parce que la forme de Pierre s'impose à tous les recteurs de l'Église et le privilège de Pierre demeure donc partout où il est porté un jugement qui vient de son pouvoir. Je viens de vous lire un sermon de saint Adon, prononcé il y a plus de 1000 ans, sur saint Pierre. Je vous recommanderais, si vous allez au Salon du Livre aujourd'hui ou demain, de bien regarder et de bien chercher le livre « Plaidoyer pour Jean-Paul II » de... Le nom de famille, c'est Donorio, D'O-N-O-R-I-O, chez Jean-Claude Lattès. C'est un ouvrage de 280 pages environ, mais remarquablement intelligent. On peut y apporter quelques petites réserves, mais pour l'ensemble et la très grande majorité, d'ailleurs cet ouvrage est écrit par un homme profondément compétent. Je vous ai dit aussi que c'était la fête de la dédicace de Saint-Pierre de Rome et de Saint-Paul hors les murs. Et lors du Concile Vatican II, les pères du Concile ont écrit que la maison de prière, où l'Eucharistie est célébrée et conservée, où les fidèles se rassemblent, où la présence du Fils de Dieu, notre Sauveur, offert pour nous sur l'autel du sacrifice, est honorée pour le soutien et le réconfort des chrétiens, cette maison doit être belle et adaptée à la prière et aux célébrations liturgiques. Oui, elle doit être belle. Et c'est Jérôme Carcopino, dans un ouvrage sur le Vatican, qui écrit, en parlant de la basilique Saint-Pierre, qui est une basilique gênante dans un sens parce qu'elle est tellement vaste, elle est tellement belle, elle est tellement riche, elle est tellement luxueuse, que quand on veut vivre de l'Évangile, on est un peu gêné devant tout ça. Mais ce qu'il écrit est quand même très beau. Il dit, il n'est pas possible de ne pas sentir ici la présence spirituelle qui depuis tant de siècles fait battre le cœur des croyants. Chercherait-on à s'en abstraire qu'on serait encore forcé de subir l'envoûtement de ce lieu, de la basilique Saint-Pierre du Vatican, l'envoûtement de ce lieu qui est sacré pour les chrétiens au nom de la foi, mais qui, en nom de la beauté, est revendiqué par tous les hommes à l'honneur de l'espèce humaine. Et sur la place Saint-Pierre, devant la basilique et le Vatican, un esprit fort, comme Stendhal, c'est plus à reconnaître, ceci est tout simplement la perfection dans l'art. C'est vrai que c'est d'une beauté extraordinaire. Or, l'abbaye de Cluny, malheureusement détruite à la fin du 18e et au début du 19e siècle, pierre par pierre, les pierres se retrouvant vendues pour construire autre chose autour, dans l'intérieur des maisons, des murs, etc., une des splendeurs de l'histoire de l'humanité a été en grande partie détruite, il reste presque plus rien, mais on peut quand même aller voir ce qui en reste. Ça vaut la peine. C'est une abbaye qui, je vous le rappelle, a été fondée le 11 septembre 910 par le duc d'Aquitaine Guillaume, ce bénédictin de grande réputation, saint Bernon, y a amené 12 moines, de Baume et de Gigny. Ce nouveau monastère a eu la fortune d'avoir, donc pendant ces 2 premiers siècles, des chefs, des vrais chefs spirituels qui ne furent pas seulement des saints religieux, mais aussi des hommes d'une grande noblesse de cœur, et des amis des lettres et des arts, des hommes charitables et bons, ce qui ne les a pas empêchés d'être des hommes profondément politiques dans le bon sens du terme. Et je vous donne les noms. Donc après Bernon, il y a Odon, dont je viens de vous parler, qui a été abbé pendant 15 ans. Le bienheureux Aymar, abbé pendant 12 ans. Saint Mailleul, abbé pendant 40 ans. Saint Odilon a été abbé pendant 55 ans. Et Saint Hugues, dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure, Saint Hugues de Saumur, pendant 60 ans. Ils ont présidé aux destinées de cette abbaye. Et au nom de ces grands abbés, on peut ajouter celui de Pierre le Vénérable, dont l'abbatiat a duré 34 ans. L'ordre clunisien comptait vers la fin du XIIe siècle quelques 1200 monastères, mais s'est monté même à 2000, selon certains auteurs, répandus dans tout l'Occident, de la Pologne au Portugal, peuplés par des milliers de religieux. Cette expansion absolument extraordinaire a eu pour cause principale la pureté de l'observance bénédictine de Cluny. Ils avaient ajouté à la règle des coutumes qui ont fait le tour de l'Europe. Ce qui a aussi aidé, c'est la sagesse de ces institutions qui lui ont conféré, en face de toute l'anarchie des seigneurs qui régnaient ici et là en Europe, le caractère d'une espèce d'empire spirituel centralisé avec des chefs éminents. Ils avaient des abbés éminents. Et en avant sur les idées de leur temps, ces grands abbés comme Saint-Odon et les autres se sont rendus parfaitement compte qu'au milieu de la grossièreté, puis du désordre, puis de la violence du monde de leur temps, du monde contemporain, un institut comme le leur avait un rôle social à remplir, en dehors et au-dessus de toutes les frontières, dans le mépris des intérêts vulgaires, des intérêts égoïstes, en revanche aussi avec le souci de tout ce qui est noble et beau. Qu'est-ce qui est noble et beau? La sanctification des âmes, l'hospitalité, la charité envers les pauvres, la défense des faibles, le culte de l'intelligence qui régnait dans ces grands monastères bénédictins et qui y règne encore, la pratique des arts de la beauté, et surtout de ce qu'il appelait l'office divin, l'opus divinum, la louange de Dieu dans la splendeur des églises, par la beauté des liturgies, de la psalmodie, des chants sacrés. Ces bénédictins ont compris, en outre, que l'abbaye dont ils avaient la charge fondait sa force sur la liberté qui les rattachait directement au siège apostolique. Et ils avaient le devoir d'exercer une grande action pacificatrice par toute l'Europe. Grande abbaye que fut Cluny, grand saint que furent ses moines, et nous avons grandement besoin de comprendre que l'Église est à l'exemple de Cluny, et qu'aujourd'hui, dans ce monde décadent, violent, terrible, l'Église est un rempart contre la barbarie. Oui, le christianisme est un rempart admirable, qui prêche l'amour, le souci des pauvres, le sens de la justice. Il nous faudrait des saints partout, chez les généraux, les politiciens, les hommes d'action, les grands hommes d'affaires. Oui, des saints partout, inspirés par l'Église, inspirés par l'exemple des grands saints.